et hop, un nouvel épisode qui fait suite à notre quiz du début d'année avec cette fois deux thématiques, architecture et DevOps. Faut-il migrer à tout prix? Microservices ou web API? gRPC est-il un must? Azure DevOps va-t-il être remplacé par GitHub, SonarQube ou Endipen pour valider votre code? Tels sont les sujets abordés par nos spécialistes sans tabou ni dogme. Nous finirons enfin cet épisode avec François Tonic, rédacteur en chef du magazine Programmé, qui nous présentera le contenu de son numéro de février. Alors plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request.
Pour commencer cette deuxième session de quiz, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir Michel Perfetti. Bonjour.
Salut.
Salut. Microsoft MVP depuis 2006, catégorie Developer Technology, MCT sur Azure, sur les technologies DevOps et CTO chez Celenza. J'ai également Gérald Barré, bonjour.
Salut.
Microsoft MVP catégorie Developer Technology depuis 2020, et auteur du blog Mesiantou.net. Nous avons également Olivier Dahan, bonjour.
Bonjour.
Microsoft MVP depuis 2009, développeur technology, fondateur de la société Inaxos, société de consulting et formateur sur .NET, C#, MAUI et WPF. J'ai bien dit là. Hein?
Ouais, c'est bien. C'est bien. Merci.
Et enfin, nous avons notre Yoda préféré qui est malade, mais qui a tenu à tout prix à être là. Donc, Laurent Campé, bonjour.
Salut Richard.
Ouais, ça va.
Donc, qui est malade, hein, c'est pour ça qu'on se moque de lui. Microsoft MVP depuis 2003, catégorie Developer Technology, Team Leader et Distinguished Solution Architect chez Innoveo.
Il vient de passer pas l'hiver quand même.
Ouais, je sais pas si va passer l'hiver. Donc pour je te rappelle Laurent que c'est un podcast, donc c'est uniquement en audio et donc tous les gestes que tu fais ne sont pas enregistrés.
C'est pour les autres.
C'est pour les autres. Donc on va continuer ce quiz. Le premier quiz était essentiellement sur tout ce qui était développement en C#, etc. Là, on va avoir plutôt deux catégories. Une première catégorie au niveau architecture de développement, savoir ce que vous pensez au niveau architecture de développement, et ensuite au niveau DevOps. Alors, je ne sais pas si on fait DevOps ou Archi d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une opinion?
Oh, c'est ton podcast, hein, tu choisis.
Ça va dépendre de Laurent ce qu'il veut faire avant de mourir, mais
l'archi. Allez, l'archi,
d'accord.
Bien, au niveau architecture, donc la première question que je me posais, c'était depuis quelque temps, Microsoft fait du rentre dedans avec .NET 7, .NET 6, .NET Core, etc. Donc la question, c'est faut-il migrer à tout prix ces applications? Et imaginons, j'ai une application qui a été développée en .NET avec le .NET Framework depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il faut à tout prix que j'envisage ou je reste avec le framework pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'il veut
dire?
Vas-y.
Non, le problème des migrations, c'est un problème qu'on aborde à chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies, etc. etc. Et en plus, là, on reste chez Microsoft. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a rien de nouveau à l'Ouest. Il y a soit un soft qui fonctionne et qui est pertinent. Ce n'est pas une obligation de le migrer immédiatement du moment qu'il marche et qui ne coûte pas cher en maintenance. Par contre, il va falloir penser que la prochaine version devra être écrite autrement. Et l'avantage qu'on a entre les différents .NET et les Core, c'est qu'on peut récupérer beaucoup de code en fait, d'une version à l'autre. Donc, bon, voilà. Mais il faut le planifier. Ça se fait, c'est pas magique. Ça ne marche pas tout seul. Maintenant, si tu as un soft qui est en fin de vie, vaut mieux penser à la version future, effectivement, que tu vas réécrire, plutôt que de te fatiguer à faire une migration qui va te coûter cher et pour pas grand-chose. Et puis, si tu as un soft qui ne marche pas ou qui ne peut pas être maintenu, je crois que la solution, elle est simple, ça ne sert à rien de le porter. Je veux dire, il faut le réécrire. Donc, je crois que c'est à peu près ça, en fait. Et on a toujours ce même problème, en fait, quand on doit prendre la décision, en fait. C'est est-ce que le truc, il tourne, est-ce qu'il lui reste longtemps à vivre? Et est-ce qu'il est facile à maintenir? Et puis, il y a aussi le dernier point, c'est que la technologie qu'on utilise, est-ce qu'elle va être maintenue pendant longtemps? Alors, par exemple, pour les gens qui faisaient du Xamarin Form, on sait que ça va être maintenu, mais enfin, il n'y a plus aucune nouveauté, il n'y a plus rien du tout. Il serait temps de passer à Maui. Mais enfin, il n'y a pas le feu au lac non plus. Quoi. Si c'est un soft qui ne mérite pas, ça ne sert à rien de migrer. Pas migrer pour migrer, en tout cas.
Ah, tu veux dire qu'il n'y a pas d'urgence. Enfin, on peut le faire, mais petit à petit, sans le couteau sous la gorge.
Ouais, je pense. Tout dépend après de l'importance stratégique de l'appli, du sens qu'on veut lui donner aussi, si c'est un truc interne, si c'est un truc vis-à-vis de l'extérieur, et qu'on veut faire voir sa modernité. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Hein. Là, on parle que de l'aspect informatique. L'aspect informatique, passer d'Xamarin.Form à Maui, c'est un gain évident, mais comme toute migration, ça a un coût, malgré les outils de migration dont j'ai déjà parlé, etc., qui sont mis à disposition. Il y a quand même un coût, il faut le planifier, il faut le faire, etc. On y gagne, mais tout dépend de ce dont on part et où on veut arriver. Parce que, donc il y a le temps, oui, je pense qu'il n'y a pas 50 ans devant soi, mais par exemple, ils ont pris du retard eux-mêmes pour nous livrer la version finale de Maui. Je pense qu'aujourd'hui, on est en janvier 2023, bah on peut espérer que... voilà. Il faut mettre en branle le truc d'ici la fin de l'année 2023. Quoi. Voilà, c'est pas le couteau sous la gorge, mais il faut y aller, il faut y penser.
Il y a des choses intermédiaires hein, entre la rien faire et tout migrer. C'est tout ce qui est bibliothèque non visible, commencer à essayer de les passer en .NET standard pour avoir quelque chose de plus universel possible. Donc on peut commencer par le non visible et petit à petit remonter. On n'est pas obligé de toucher les parties qui font mal.
Et alors, j'allais dire, il y a l'histoire de la migration, mais je pense au niveau de .NET, on a vraiment une grosse step qui est .NET Framework et puis .NET Core, enfin, qu'ils appellent plus Core, mais .NET tout court, quoi. .NET Framework, c'est encore supporté jusqu'à quand ?
Pendant très longtemps.
Très longtemps, pendant au moins 10 ans, quoi.
Bah, tant qu'il y aura des versions de Windows, je pense qu'il y aura des versions de .NET Framework.
Ouais.
Ouais, il me semble. Je pense que c'est pas fini. Pendant qu'il y a plein de trucs qui disparaissent et que WPF, ça reste toujours, tu vois, parce que bon, finalement, ils n'ont pas grand-chose comme autre technologie, en fait, suffisamment moderne, en vectoriel, etc., qui fonctionne sous framework .NET.
On dirait tant qu'il y a Visual Studio, il y aura WPF.
Ouais, donc .NET Framework, on peut dire que dans les 10 ans qui viennent, on est encore...
C'est supporté, mais il n'y aura pas d'évolution, quoi. Peut-être pas une évolution majeure.
Parce que je crois que la version de .NET Framework, elle suit la version des versions de Windows qui a été déployée.
Ouais. Donc,
comme version de Windows, elle dure très longtemps, on est tranquille. Mais oui, il n'y aura plus d'évolution. Il n'y a quasiment plus d'évolution sur .NET Framework, d'ailleurs.
Non, il y a 2-3 trucs sur WPF avec l'arrivée de Windows 10, 11, je veux dire, avec Core, etc. Il y a quand même des choses qui se passent. Hein. Il ne se passe pas rien du tout. Ils font des choses, mais... c'est vrai que c'est pas là que l'essentiel de la bataille va se jouer. Bon, ça, c'est une évidence. Mais ça reste quand même la seule solution desktop, purement desktop, je veux dire en vectoriel, avec le vrai XAML, en fait, le premier qui est complet, où on peut faire de la 2D, de la 3D, où on peut faire des... je veux dire, ça reste un système de développement. Moi, j'ai toujours adoré WPF. Je veux dire, ça reste très, très, très utilisable. Maintenant, on s'enferme sur le desktop.
Ouais. Alors, j'allais dire maintenant, on a l'application soit .NET Framework, soit .NET. Maintenant, imaginons qu'on ait commencé une application l'an dernier en .NET tout court.
C'est quoi .NET tout court ?
Bah, .NET...
5 et plus, quoi.
6, voilà.
Voilà, ouais.
Allez, 6.
La question, c'est qu'on va avoir une mise à jour qui se fait tous les ans. C'est un petit peu la tendance générale. Moi, je prends l'exemple d'Angular. Là, Angular, on a une mise à jour qui majeure qui est faite tous les 6 mois et puis un support qui est tous les 2 ans seulement des différentes versions. Est-ce que quand on commence à développer son application en .NET 6, 5, 7, est-ce qu'il faut à tout prix suivre ou plutôt les nouvelles versions?
Disons qu'il faut rester sur une version qui est supportée. Et si tu as encore, par exemple, .NET 3.1 est plus supporté aujourd'hui. Donc, si tu as des bugs, si tu as des choses qui ne marchent plus, c'est ton problème, tu assumes. Tu as choisi de ne pas mettre à jour. Mm. Maintenant, tu as toujours... quand tu prends une version LTS, donc par exemple, la version .NET 6, c'est une version LTS, elle est supportée pendant 3 ans. C'est-à-dire que tu peux commencer sur cette version-là, que tu fais, t'as fini ton développement, bah dans 2 ans, tu fais juste une update à .NET 8. Ça te laisse un petit peu de marge, quoi. Puis 2 ans si après, tu fais .NET 10.
Tu sais que soit tu choisis les versions intermédiaires et tu sais que tous les ans, il faut faire une migration.
Ça. Disons que si t'es sur un développement actif, autant rester sur les versions STS, là, enfin, les versions qui, tous les ans, tu mets à jour. Tant que t'es en développement, de toute façon, les updates sont en général assez faciles à faire. Sauf si vraiment t'as utilisé un truc très... un peu de niche, là.
Achieve, oui.
Mais sinon... Sinon, tu mets à jour tous les ans. Ça... Enfin, moi, par exemple, .NET 7, là, j'avais une application, ça m'a pris 5 minutes de passer juste à .NET 7. Donc, j'ai mis à jour l'image la version de l'image Docker, l'image de la version du SDK, et puis c'était tout. Après, bah, dans le temps, tu peux profiter d'une belle fonctionnalité, mais...
Ouais, moi, j'ai pas eu la même expérience. Mon approche, bon, c'est une application qu'on développe et qu'on maintient depuis longtemps, qui était basée sur .NET Framework 4.7.1. On a migré en 4.7.2 et on a attendu .NET Core 3.1, je crois, pour la migrer, qui est WPF et tout ça, puisqu'on est basé sur WPF. Mais moi, j'ai toujours pris le parti de mettre à jour. Bon, c'est un produit, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est aussi l'attractif. Je veux être attractif pour des développeurs qui ne vont pas utiliser des vieilles techno qui sont plus mises à jour, plus trop maintenues, ou qui avancent plus trop. Donc ça a aussi un avantage. Par contre, c'est vrai que c'est un coût, quoi. Il faut toujours vérifier le coût. Et moi, mon expérience, par exemple, sur notre applicatif, pour passer de .NET 6 à 7, j'ai levé plusieurs problèmes dans le SDK. Ça ne marchait plus comme ça marchait avant. Là, on a remonté un truc avec des XML Serializer dans une single file app où on génère à la compilation les Serializer. Et en fait, au runtime, il les régénère. Donc, il y a quelques bugs, quoi. Il y a eu des petits problèmes. Et le SDK, il y a certains problèmes que j'ai cherchés pendant un petit moment, quoi. Donc, ça a un coût. Mais je pense que ça vaut le coup aussi de le payer petit à petit, peut-être tous les ans, voire peut-être même tous les 2 ans encore. Mais je pense que c'est le coût, il est plus grand si on veut passer maintenant de 4, peut-être de .NET Framework 4.7.2 à .NET 7, quoi.
Oui, parce que tu changes le runtime.
Tu vois bien le problème. Il y a grosso modo 2 choix. C'est soit tu te goinfres des petits chocs régulièrement et tu résous les choses tous les ans avec chaque nouvelle version et il n'y a jamais énormément de choses à vérifier. Ou soit tu te mets sur une LTS, etc. et tu changes tous les 3 ans de version. Et là, forcément, il y a un écart qui est plus grand et tu risques d'avoir plus de choses à tripoter dans ton soft, quoi, je veux dire. Donc, c'est une question de gérer, en fait, de gérer la maintenance, le coût de la maintenance, comment tu la digères, quoi. Je veux dire, au fur et à mesure, ou une grosse fois tous les 3 ans ou tous les 2 ans.
Et puis, ça dépend de l'adhérence que tu as à ton système aussi. Le problème d'être vraiment, des fois, tu ne peux pas choisir la version du runtime que tu as installée. Donc, des fois, tu es figé parce que côté ops, bah, tu as une vieille version et c'est comme ça, quoi. Tu ne choisis pas, en fait, la version du composant que tu avais.
Presque, vous avez entendu parler du projet PolySharp, qui est assez intéressant. C'est un peu la même technique que pour les comment ils appellent ça dans le web,
polyfill,
mais pour C#. En fait, ça permet de ramener des nouvelles fonctionnalités dans des anciennes versions.
Ouais.
Ah, il y avait ça à l'époque du .NET Framework 3 qu'on pouvait pas installer, une bibliothèque pour simuler les links ou les méthodes d'extension à l'époque.
Ah ouais, ça, je ne me rappelle pas de ça.
On peut réintégrer, dans des anciennes versions, on peut intégrer des fonctions de C# récentes.
Ouais, tant qu'il n'y a rien qui a changé dans le CLR, c'est que des changements qui viennent du compilateur ou du langage. Donc, ouais. La plupart du temps, on peut rétrofitter des fonctionnalités.
Et beaucoup des trucs qu'ils ajoutent sont des syntaxes Sugar, etc. Donc, c'est pas tellement dur à simuler, parce qu'en fait, l'essentiel est déjà dans la boîte.
Voilà, avec PolySharp, c'est encore plus simple.
Il faut quand même que ta runtime soit à jour après. Quand on parlait de mettre à jour, c'est pour les problèmes de sécurité. Ce que les gens oublient, en général, c'est que les updates, tu as tous les mois, en fait. Et les gens, ils se disent, oh, j'update la version majeure. Mais en fait, tous les mois, tu as une version mineure qui est publiée et qu'il faut normalement installer sur tes machines. Surtout quand on est en .NET Core maintenant, les .NET Core peuvent s'installer avec des Windows Update. Mais si c'est sur une image Docker ou des choses comme ça, pour builder son image tous les mois, pour être à jour et avoir de quoi. Donc.
Et avoir un système qui permet qui te le dit aussi.
C'est ça, avec des auto-updates, des choses comme ça, tes projets, là, genre dépendre d'Abbott ou autre.
Bien, on va passer la deuxième question. C'était concernant microservices versus web API. Est-ce que, enfin, c'est plus une question vis-à-vis des microservices. C'est, est-ce que les microservices sont vraiment intéressants par rapport à une web API type monolithique ou genre de choses, quoi?
Ça dépend de l'application.
Ce qui répond à ton besoin, j'ai envie de dire. C'est si un bon monolithe, ça répond totalement à ton besoin.
Non, tu peux. Ouais, un bon monolithe bien organisé, en hexagonal, bien découplé, généralement.
Je pense qu'il y a le plus simple.
Pour moi, le besoin microservice, il doit apparaître parce que tu as un besoin, mais pas parce que tu as décidé de le découper. Donc, en fait, c'est ton système en évoluant qui fait apparaître tes microservices et ce n'est pas un choix dès le départ. Le problème, c'est que les gens, ils font l'inverse. Ils commencent à faire le découpage, qui fait que le découpage, il n'est pas cohérent après avec le système.
C'est pareil en informatique tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas raisonner avec des dogmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de dogme. Il faut adapter en fonction de chaque cas. Et c'est ce qui fait nos expertises. Parce que bon, bah voilà, par exemple, nous, on commence à voir la bouteille, on est des MVP. Bon, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, mais bon, on a un certain nombre de dossiers derrière nous et on est capable de faire certains choix éclairés. Et il y a des mecs encore plus expérimentés que nous qui font des meilleurs choix encore. Mais je veux dire, c'est le principe en fait de l'expérience. C'est que dans ces trucs-là, il faut savoir choisir. On a vécu, pour avoir un peu plus de bouteilles que ceux qui arrivent, on en a vécu plein des modes. Celle du ML, celle du Agile, celle du machin, celle du truc, avec les mecs qui vendaient des cahiers des charges. Il fallait qu'il y ait 30 pages sur UML dans chaque proposition de SS2I. Sinon, ça passait pas. Ça a été abandonné totalement. Alors, c'était quoi l'alpha et l'oméga de la réussite des logiciels.
Oui, il y a un tiers, tu te rappelles ?
Oui, et puis le test testing, enfin bon, bref, tous ces trucs-là. Et en fait, il ne faut pas les rejeter non plus. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de dogme. Et puis qu'il n'y a pas les budgets non plus souvent. Donc, tu ne peux pas faire du test unitaire, du machin, du truc, parce que le client, à la fin, il veut payer le même prix. Donc, à la limite, pourquoi pas, je veux dire. Moi, je sais que sur des discussions, tu viens, tu leur dis... telle technologie permet de faire mieux et d'avoir plus de sécurité. Et le mec, il te regarde et il te dit pourquoi, avant, vous faisiez de la merdouille. Il dit, ah bah non. Bon, bah alors, continuez à faire ce que vous faisiez avant, quoi.
Olivier, Laurent est agonisant. Il voulait dire quelque chose.
Laurent, on n'entend plus presque. Attends.
Non, c'était juste pour dire que des fois aussi, ce que j'ai vu à droite à gauche, c'est que tu as des gens qui prennent des positions de manager ou de lead d'un département technique ou des trucs comme ça, qui commencent à entendre des mots, des buzzwords, microservices, machin, ouais. Kubernetes et tout ça. Et du coup, il faut tout de suite appliquer ça parce que ça va être vendeur ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment voir si techniquement, il y a un réel besoin pour l'applicatif qu'on est en train de développer. Il ne faut pas juste sauter sur ces trucs-là parce que c'est le dernier buzzword. Après, c'est un besoin, il faut les connaître et faut les utiliser. Et un bon vieux système... ça peut très bien marcher encore aujourd'hui, quoi.
Beaucoup de trucs qui marchent encore en COBOL, là.
Oui, enfin, je me souviens d'avoir eu une application web qui marchait avec une base de données Access, avec énormément de clients, et ça marchait très bien, quoi.
Voilà, il y a deux semaines, j'ai vu une présentation de le Dapper, donc le Distributed Application Runtime. Ils ont un espèce de call toutes les semaines ou les deux semaines. Et il y a un gars qui faisait une démo où un des services était écrit en COBOL. Et ils appelaient dans une architecture microservice un service écrit en COBOL. Donc,
non, et pour ce qui est d'Agile, puisque c'était ça, les microservices et tout ça, les microservices, ça pose quand même. On peut en discuter d'un point de vue purement technique après. Purement technique, le problème des microservices, c'est que comme ça oblige à isoler, chaque microservice doit avoir sa base de données, elles n'ont pas le droit tellement de communiquer directement entre elles, machin, etc. Ça peut vite devenir le souk. Et pour utiliser une base de données relationnelle qui n'ont pas été du tout faites pour ce genre de choses, puisque tout doit être ensemble pour être relationnel, il y a quand même des pertes. Donc il faut bien y réfléchir. Ça s'applique à certains domaines de façon très très bien. Et à d'autres domaines, il faut dire aux gens, même si ça fait hype, ne faites pas de microservices, quoi. Je veux dire, ça ne correspond pas. Par contre, inspirez-vous de l'esprit, de découpage fort, de MVVM, de tout ça. On le retrouve un peu partout, cet esprit très de découplage, pour pouvoir garder la main sur la complexité. Parce que le pire des trucs qui arrivent en informatique, c'est perdre la main sur la complexité, en fait. Et les échecs que j'ai vus, moi, c'est souvent ça. C'est que les mecs, ils veulent aller trop loin, et ça dépasse de loin leur capacité à gérer le truc. Donc, il faut garder la complexité, il faut pouvoir découper. Donc, il y a des bonnes choses dans l'idée du microservice, comme il y a d'excellentes choses dans l'idée de l'agile. Maintenant, ce n'est pas des dogmes, quoi. On n'est pas des prêtres et on ne fait pas une religion. Donc, on a le droit de... on a le droit de faire des mix. Quoi.
Après, l'agile, il y a quand même un sacré business derrière. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça qui a poussé vers l'état des fêtes. Il y a des très bonnes choses à prendre, ouais. Comme le fait d'être itératif, d'apprendre sur les dernières itérations, d'essayer d'améliorer les choses. Mais il y a beaucoup de business aussi derrière. Donc.
Oui.
Ben on reviendra sur la méthode agile justement dans la catégorie DevOps là. Dans les hype actuellement, on parle aussi des gRPC. Donc d'avoir des services gRPC versus des web API. Au niveau des appels des données par rapport à son service web. gRPC, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez?
La réponse universelle, ça dépend.
Oui, non.
Ça veut dire des avantages et des contraintes. Hein. C'est comme tous les systèmes.
Là, c'est toujours voilà.
C'est pareil.
Ça dépend qui en va fait, consommer.
Les avantages, c'est que tu n'as pas à taper ton JSON à la main.
Qu'est-ce que tu disais, Michel?
Tu n'as pas à faire le JSON ou le... Parce que c'est... Oui. Lié avec un compilateur par langage.
Oui. C'est une solution de feignant pour le développeur, ça.
Oui.
Bah, les feignants, les développeurs les, ouais. Les développeurs les plus feignants sont souvent les meilleurs. Hein.
Donc, gRPC, ce qu'il y a d'avantageux, c'est que, un, ça va plus vite que les API REST. Ça, c'est une évidence. Donc, si tu vises des performances, c'est plus rapide. Tu peux faire du continu. Ce n'est pas tout à fait possible avec de l'API REST.
Tu peux faire du bidirectionnel.
Tu peux faire du bidirectionnel, oui. Tu peux. Il y a plein de trucs que tu peux faire. D'abord, c'est moins verbeux que le JSON parce que c'est du binaire, c'est du protobuf. Donc, c'est aussi intéressant. Ça supporte du HTTP/D2. Alors, toutes les discussions sur les URL et sur les verbes qu'on donne, etc., ça n'existe plus. Donc, enfin, le sexe des anges disparaît.
On gagne du temps en réunion.
Voilà, on gagne du temps en réunion. Donc c'est pas mal et c'est assez réactif et c'est même plus réactif que le reste.
Après, tu veux pas oublier que c'est le format, c'est un format binaire, bah, t'augmentes aussi la complexité dans le debug. Tu vois, là où tu pouvais mettre ce qui passe, c'est un peu plus difficile. Tu vois, donc c'est toujours des trade-offs comme ça à regarder. Pareil, toi, c'est consommateur.
Alors, moi, il y a du tooling.
Tous les consommateurs peuvent pas. Par exemple, si t'as un client web dans un browser. Bah, tu ne peux pas profiter de toutes les fonctionnalités de gRPC non plus, parce que tu as des contraintes entre eux, ce qui supporte, tu vois. Toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu as besoin.
Il n'y a pas de dogme dans le web. Il faut adapter en fonction de ce qui semble être le meilleur pour le projet.
Exactement, oui. Il n'y a pas une solution, ce n'est pas gRPC, c'est la révolution absolue et tout le monde doit faire ça. Si ça marche pour toi, très bien, vas-y. Quoi.
Non, maintenant, ça a des avantages évidents sur le web API et c'est une solution, en tout cas, qui vaut le coup d'être observée, d'être gardée en tête. Parce que ce n'est pas une mauvaise solution.
Et GraphQL dans tout ça. On se retrouve avec...
Il est malade, il dit n'importe quoi.
gRPC, GraphQL, REST API, HTTP.
Non, mais
on fait le choix.
Tous le même problème, c'est on veut des interfaces les plus riches possibles pour requêter nos données. Quoi. C'est toujours le même problème. Et le problème de REST, notre principe, c'est que les requêtes sont figées et elles sont pensées par le développeur du back et pas par le front. Oui. Et GraphQL, ils essayent d'enlever un peu ce problème-là en laissant le front la liberté de requêter comme il veut.
Tu mets une console, où le mec peut taper du SQL comme il veut. Il n'y a plus de problème dans le requêtage. Tu sais, pendant longtemps, j'ai fait le composant MK Query Builder, c'est-à-dire qui permettait de construire des requêtes SQL visuellement, en fait, et qui était principalement un composant qui se vendait pour Delphine. C'était l'objectif, c'était d'arriver à des trucs où les gens peuvent interroger un peu tout et n'importe quoi sans offrir des cadres trop figés parce que c'est ça quoi. Et si c'est trop large, les gens ils se perdent dans les filtres, dans les machines.
Et puis après, au niveau des performances, t'as l'interface la eQueryable là, qui existe pour essentiellement Entity Framework qui te permet de faire les queries comme tu veux.
Il y avait Odata aussi, il y a une dizaine d'années, qui a essayé de percer, mais qui n'a pas trop bien marché.
Ouais, j'ai fait un projet là-dessus. Je l'ai un peu regretté.
Non, le problème, c'est que justement, t'as le client qui peut faire ce qu'il veut. Quoi.
Ouais, mais par contre...
C'est pas forcément optimisé.
C'est donner du lard à des cochons, souvent, de ce que j'ai vu. Et bon, Mais ça marchait bien, c'est dommage que ça n'ait pas pris plus que ça, parce que c'était pas si mal que ça.
Après, je pense que toi, tous ces systèmes très ouverts, c'est bien quand tu as un service qui est tu sais pas qui va te consommer réellement et tu es vraiment grand public, toi. Genre GitHub, c'est toi, leur API, tu as 10 millions d'usages. Je veux dire, Facebook, tu as 10 millions d'usages.
Tout à fait.
C'est tous ces trucs-là, tu as 10 millions d'usages. Toi, quand tu fais ton application et que tu sais, tu as 3 clients et tu les connais, bah, tu peux faire des calls optimisés pour eux aussi, quoi. Surtout si tout le monde est dans la même équipe, il n'y a aucun problème pour éviter de rajouter de la complexité avec des solutions très ouvertes comme OData ou GraphQL et aller vers des choses plus spécifiques, quoi.
Et après, peut-être que c'est lent aussi en requête parce que la base, elle est optimisée pour l'écriture et pour la cohérence. Et ce qui fait que quand tu fais de la lecture, tu dois passer par les tables intermédiaires qui n'ont pas de sens côté client. Et donc, il vaut mieux des fois avoir une base côté back qui soit faite pour l'écriture avec la cohérence et une base côté front qui est adaptée à la lecture. Et généralement, on relâche les contraintes et on duplique les données, mais on s'en fout parce que le stockage, ça coûte pas cher. Et au lieu de faire des fois 15 requêtes ou 100 requêtes pour une page, ben on n'a qu'une requête parce que toutes les données sont au même endroit.
Oui, donc ça veut dire que tu prototypes ta base de données en fonction du client, quoi.
Ouais, tout à fait.
L'utilisation.
Ouais, tu peux mettre une base relationnelle en back pour tes cohérences. Et dès qu'il y a des changements, tu les pousses dans une base NoSQL en front qui est faite pour la lecture.
Donc, ce qui va un petit peu à l'inverse de ce qui est dit un petit peu généralement, c'est-à-dire on crée des API avec, qui permettent d'interroger un petit peu comme on veut, alors que là, ce que tu es en train de dire, c'est on crée des API qui sont vraiment designées pour l'utilisation des clients.
Ouais, bah imagine, moi j'ai vu chez un client une boutique en ligne, la home page, il y avait 200 requêtes SQL qui passaient. Latence énorme, classement dans Google merdique. Donc on a optimisé, on a mis un peu de cache, mais on a gagné dans Google dès qu'on a optimisé les requêtes.
Oui, non, mais je suis.
Ça a un nouveau tick si personne ne la connaît, quoi.
Oui, non, mais c'est souvent, on a des grands architectes qui sont là en disant on fait quelque chose qui est agnostique de ce que fait le client, alors que.
C'est faux, il faut vraiment qu'on fasse. Il faut vraiment s'adapter, surtout que maintenant on est une époque où on peut vraiment choisir son modèle de stockage en fonction de. Il y a 15 ans, on ne savait pas faire. Hein. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les développeurs .NET ont été traumatisés par la base de données relationnelle parce qu'on n'avait que ça. Et quand on prend des gars qui ont bossé, qui ont fait du Java ou autre, qui avaient du Mongo et des bases NoSQL depuis longtemps, des gars qui arrivaient avec .NET, mais ils étaient un peu perdus.
Ouais, le Mongo, là aussi depuis aussi longtemps que.
Ouais, mais tu vois, quand dans les grosses boîtes, c'est quand t'as des serveurs Windows, c'est pas le truc que t'as installé souvent
Google en premier.
Ouais. Ouais. Ça c'est clair.
Non, et puis il faut connaître effectivement les besoins du client. Après, il y a ce qu'on appelle la dénormalisation. Ça sert à ça, c'est que t'as un truc qui est propre, qui est dénormalisé. Et puis, tu assumes certaines dénormalisations pour des raisons de rapidité, pour des raisons de performance, etc. Mais tu es bien obligé de connaître correctement pour faire ça le métier du client, de connaître les bases de données, savoir comment elles fonctionnent. Parce que les mecs qui la normalisent, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la troisième forme ou ce que c'est que la normalisation, ça me fait toujours rigoler. Hein, c'est comme si demain, on faisait de la médecine par Internet, par exemple, pour faire des diagnostics à distance. Là, c'est un truc de gourou. Ah merde, ça existe. comme quoi il n'y a pas que chez nous. Je veux dire qu'il y a des dérives bizarres, mais il faut connaître, il faut savoir, quoi. Et là encore, il n'y a pas de dogme, il faut s'adapter.
devdevdev.net. Richard Clark.
Bien, écoutez, on va passer à la deuxième partie, dans tout ce qui concerne DevOps. Donc la première question que je me posais, c'était au niveau de l'approche de développement, une approche agile ou une approche entre guillemets classique. Vous allez me dire oui, ça dépend, etc. Bon, bref.
Lol.
C'est quoi une approche agile?
Classique.
En V. Qui n'est pas agile, quoi.
Qui n'est pas agile.
C'est pas lourd.
Aujourd'hui, c'est par défaut, on va dire on est agile. Donc, le truc classique, ça pourrait être agile, quoi.
Enfin, on va dire si on met en place un Scrum Master, ce genre de choses, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important dans ces développements ou pas?
Non. Vraiment pas.
Bon.
Non. Scrum, pour moi, Scrum Master, c'est lié à une pratique agile qui s'appelle Scrum. Il y en a plein d'autres. Il y a les idées de Lean aussi. Je pense qu'il y a à apprendre un peu dans tout ça.
Extreme programming.
Extreme programming aussi, ouais. Michel, tout à fait. Et je pense qu'il y a vraiment à piocher un peu dans tout ça et à prendre le meilleur de partout pour avoir la meilleure possibilité de développer du logiciel, quoi. Et comme le disait avant Olivier, il y a, c'est pareil, pour moi, il n'y a pas de dogme là-dedans à avoir. Il faut prendre des choses qui vous font avancer. Et puis je pense que dans le côté agile, le fait de faire un peu de tout, tout le temps, du développement, du test, de la spec et tout ça, c'est une chose qui marche relativement bien, quoi.
Oui, c'est formateur.
Moi, ce que j'ai retenu dans mes expériences, c'est que effectivement, ça pouvait paraître un petit peu lourd, etc. Mais à partir du moment où il y avait véritablement, j'allais dire, une volonté de la part des chefs de projet de mettre en place cette méthode et de mettre en place véritablement des Scrum Masters, enfin des qui demandent un coût qui est assez important, c'était vraiment intéressant, quoi.
Il y a le risque aussi, moi, sur un projet où on a beaucoup fait comme ça et où, en fait, on avait tous les développeurs et tous les chefs d'équipe, machin, les responsables de projet, tout le monde dans le dos, hein, personne ne le disait en face, mais tout le monde avait vraiment l'impression de perdre son temps, quoi, la moitié du temps, quoi, en panabre, en machin, en truc.
Je crois que si les gens ne comprennent pas ce qu'ils font, ça sert à rien.
Ouais. Et que tu te lances et que tu fais ton truc correctement, je veux dire, tu vas quand même 10 fois plus vite. Donc, c'est pareil, il faut savoir doser, il faut savoir prendre les bonnes décisions, pas de dogme, faire un peu du Range Rover là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est du tout terrain. Je prends un petit bout d'agile, un petit bout de ceci, et puis hop, je m'adapte pour le projet en question, pour que ça soit le plus rentable et que ça soit le plus intéressant.
Après, ce qu'on peut te reprocher, c'est à partir du moment où tu veux mettre en place une méthode agile, si tu vas pas à fond, effectivement, ça peut être plus négatif que.
Il y a le danger.
J'ose pas.
Ouais. Ouais, mais ça, c'est un peu comme les microservices et Kubernetes avant. Il y a beaucoup de managers qui croient qu'on va mettre un truc agile en place, on va mettre un Scrum Master et boum, la baguette magique, tout le monde va produire du soft qui marche bien, les équipes vont interagir de façon. Correct entre elles, entre les différentes personnes dans l'équipe, ça va se passer.
C'est ce qu'on leur a vendu.
Ouais, c'est ce que je disais avant. Pour moi, il y a un business énorme là-dedans qui a été vendu avec les certifications et tout ça. Mais les gens souvent qui ont le pouvoir de décision de mettre en place ce genre de choses-là, ils restent à un niveau de compréhension qui est tellement haut que... Ben, ça ne va pas marcher parce qu'ils ne vont pas mettre tout en place pour que ça marche, quoi. Il y a quand même beaucoup de concepts qu'il faut mettre en place pour que ça marche, quoi.
C'est un problème culturel, hein. Généralement, ils mettent un PO, qui est un ancien chef de projet, mais ils ne laissent pas au PO la possibilité de faire des vrais choix. Finalement, la personne dans le Scrum, elle ne sert à rien. Puisqu'elle devrait être capable de pouvoir arbitrer... tous les jours sur le backlog, dire non aux utilisateurs, à faire plutôt ça que ça, parce que c'est le besoin global, mais la personne, elle a jamais ce pouvoir.
Ça sent le vécu, ça.
Oui, mais non, mais c'est assez courant.
Ouais, c'est courant.
Donc déjà, quand t'as pas ça, ça sert à rien d'aller plus loin dans le Scrum.
Alors, une autre question, parce que j'ai eu justement un développeur, là, qui m'a dit dans la société là, que Azure DevOps était mort et qu'il fallait à tout prix passer sur GitHub. Donc la question c'est Azure DevOps ou GitHub ?
Alors, je pense que Azure DevOps n'est pas mort.
Pas tous en même temps.
Non, je disais que comme il n'y aura pas l'image, je disais que tout le monde a rigolé en même temps pendant qu'il faisait les fêtes. C'est tout. C'est une note intéressante pour l'auditeur.
Non, mais franchement, Azure DevOps va pas mourir. Je pense que Microsoft maintient ses outils longtemps et il y a pas mal d'évolutions maintenant depuis quelques mois sur Azure DevOps. Ils ont recommencé à rajouter des trucs. Là, par exemple, ils ont sorti un truc qui s'appelle Azure Defender for DevOps, qui est en fait un packaging des outils GitHub de sécurité qui vont être intégrés dans Azure DevOps. Donc c'est assez récent. Avant, on n'avait pas ça. Ils avaient laissé ça que dans GitHub. Donc, il y a pas mal de nouveaux développements. ne devons pas mourir. Nous, on a fait, dans notre boîte, on s'est posé la question, et, parce qu'on nous demandait, les commerciaux aussi, puis les consultants donner notre avis. Et en fait, on s'est rendu compte que ça dépend plutôt de la structure de la boîte. Donc, tu as des. Ça, c'est mon avis, les personnes avec qui on a étudié ça, on s'est dit, les boîtes où, en fait, où on a des métiers vraiment séparés, des chefs de projet, des testeurs, des ops, des développeurs, et un endroit pour collaborer, on va être beaucoup plus à l'aise sur Azure DevOps, parce qu'on a des choses qu'on n'a pas sur GitHub, comme des outils de gestion de projet séparés. On peut mettre du multi-repo par projet, ce qu'on n'a pas dans GitHub. Et par contre, dans des boîtes plus petites où on est plutôt, où c'est le code qui est au centre, où les devs font à la fois du dev, du déploiement, font le suivi des tickets et le suivi des besoins, là on est plutôt sur GitHub, ce qui fait que dans des grosses boîtes on peut avoir des infrastructures projet classiques avec de Azure DevOps, qu'on le voit, et des équipes plus petites, genre Digital Factory ou sorte de dinner de mini startup à l'intérieur, je ne sais plus quel nom ça a, où les mecs ils sont sur GitHub. Parce que c'est des plus petites équipes sur des besoins très spécifiques, et donc les deux cohabitent, donc ça dépend du modèle de personnes qui collaborent autour du projet.
Juste pour te dire, la gestion de projet dans GitHub a vachement évolué l'année dernière, hein, et continuera à évoluer cette année. Ils ont annoncé là, à la fin de l'année, à GitHub Universe aussi, la gestion de projet sous forme de roadmap et trucs comme ça, qui sont accessibles en bêta ou quelque chose comme ça, mais pour les entreprises plus. Donc il y a une évolution de ce côté-là aussi. Hein.
Mais Azure, ils ont fait Azure DevOps, ils ont fait des choses pas mal, comme les Azure Boards, les pipelines, les tests, des choses de ce genre-là. Et bizarrement, quand on parlait à l'instant de GitHub plus pour des petites équipes, etc., c'est quand même assez intéressant parce que c'est complètement antinomique, quoi. GitHub, ça a été créé pour les trucs universitaires avec 3000 mecs qui développaient dessus, qui ne se connaissent pas dans le monde. Je veux dire, et cette espèce de système où tu as un local et puis tu mets à jour avec un distant, etc., qui est en fait quand même une mayonnaise assez complexe, je veux dire, dans laquelle on peut se tromper. Hein. Dans tous les projets GitHub avec qui j'ai travaillé, il fallait qu'il y ait au moins un mec qui soit une grosse tête de GitHub et qui fasse que ça, parce qu'on était coincé une fois de temps en temps, au moins par jour, et qu'il n'y avait que ce mec-là qui était capable de trouver la réponse. Hein. Donc c'est quand même un peu l'enfer, GitHub. Et moi, je serais plutôt à pousser les gens à faire de l'Azure DevOps. Je ne suis pas un fan du cloud, mais là, par contre, ça a vraiment sa signification. Le service est bien fait, il est très complet, plus complet que GitHub à l'heure actuelle, et peut-être plus structuré, peut-être plus simple à comprendre que, quand même, dans GitHub, il y a des fois, c'est des vrais trucs. C'est vraiment très louche.
Après, il y a des gens qui disent Microsoft a racheté GitHub, ils vont avoir du mal à maintenir les deux systèmes.
C'est simple, déjà tu vois que GitHub a commencé vraiment à devenir utilisable pour des projets depuis qu'ils ont été rachetés. Ils ont racheté les GitHub Actions pour SCI, justement les projets, les issues qui sont en train d'être améliorés, etc. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Azure DevOps, ça fait des dizaines d'années, enfin, je ne sais pas la durée exacte que ça existe là, mais ça fait très longtemps que ça existe. Ils ont eu beaucoup d'expertise avec les entreprises et les clients qu'ils ont eu. Et maintenant, ils sont en train de transférer cette expertise-là petit à petit dans GitHub. Mais ça va prendre un peu de temps pour arriver au même niveau sur toutes les fonctionnalités.
Oui, ils fusionneront, ça c'est clair, ils n'auront pas les deux produits pendant 100 ans.
Bah, peut-être que les deux techniquement vont coexister, mais il y en a un qui sera nettement moins maintenu que l'autre, quoi, en termes de nouvelles fonctionnalités.
Moi, je prends les paris dans 5 ans.
La même chose dans GitHub que dans Azure, à la limite, pourquoi pas, quoi.
Dans 5 ans, les deux seront là et on va commencer à attaquer une fusion. Parce que les deux vont arriver avec même niveau de parité. Mais on est tranquille pour au moins minimum 5 ans.
Oh oui.
C'est pas 10. Parce que les deux n'ont pas le même modèle. Je pense qu'à un moment donné, ils vont fusionner des choses. Je pense qu'il y aura des rapprochements sur la partie pipeline parce que c'est pas dingue.
Bah, c'est ce que tu disais déjà pour le Defender. Là. Ils commencent à ramener des features de l'un à l'autre. Et apparemment, il y a même des gens d'une équipe qui passent dans l'autre équipe.
Oui, moi, de ce que j'ai compris, c'est que quand ils ont racheté GitHub, il y avait pas mal de monde des dev div qui sont partis chez GitHub.
Exactement. Ouais.
Et puis, on a d'autres problématiques. Hein. C'est très important sur la data residency. Azure DevOps, on peut avoir des instances partout dans le monde. Donc, on peut mettre, si on a des données, des boîtes qui doivent avoir que des données en Europe, on ne peut pas avoir GitHub. Hein. Sauf si tu l'héberges quand même. Hein. Parce que GitHub, il n'est qu'aux États-Unis. Donc, voilà, il ne faut pas aussi regarder que les outils. Il y a aussi des problèmes légaux derrière la plateforme.
Ah oui, donc au niveau de GitHub, au niveau d'hébergement, c'est uniquement aux États-Unis.
Oui, ou alors sur ton propre
WordPress. Ou alors tu l'installes toi-même.
D'accord.
C'est intéressant.
C'est une grosse... Enfin bon, ça peut se faire, mais enfin bon, c'est... ça demande déjà avoir l'organisation pour pouvoir faire ça, gérer les sécurités. Gérer...
Ouais.
Ok. Alors, j'avais une dernière question complémentaire. Au niveau des outils, au niveau de, justement de CI/CD, ça c'était Jérémy, mais il n'est pas là aujourd'hui, qui posait la question concernant Sonar ou Ndepend.
Ouais.
Ah, carrément pas.
Ndepend, je connais bien, parce que je connais bien Patrick Smadja, et ça fait très très longtemps que j'utilise son produit. Donc je peux donner au moins un avis personnel. Il y a Sonar Cube qui est presque aussi bien, il faut le dire. La seule différence avec Ndepend, c'est qu'il y a beaucoup moins de visualisations, elles sont moins bonnes, je trouve. Et il ne faut pas oublier un troisième produit qui est Designite, ou Designite, comment on le prononce, qui est bien fait, mais qui est quand même un peu moins bien que les deux autres. Quoi, et Ndepend, dans ces trois produits-là, c'est celui qui a à la fois le bon niveau de profondeur et qui a en même temps le bon niveau de visualisation. Et chaque mois, je m'en sers à chaque fois que je fais des audits chez des clients, parce que c'est un truc que je fais pas mal quand même, plus que de la formation. Et quand je dois auditer un code que je ne connais pas, qui fait des milliers de lignes et des dizaines de milliers de lignes, c'est grâce à Ndepend que je repère très rapidement les méthodes qui sont trop longues, les machins qui font des conneries, les dépendances qui ne vont pas, les machins comme ça. Et je m'en sers aussi dans certains projets. Il y a un projet que j'ai fait il n'y a pas très longtemps où je leur mettais j'avais inventé la météo la météo du projet, en fait, en termes de qualité, c'était la météo qualité. Et toutes les semaines, je leur sortais avec la dette technique qui augmentait ou qui baissait. Et alors, j'avais pris des symboles météo, si on était avec un petit soleil voilé, ou s'il allait pleuvoir, ou etc., en fonction de tout ça. Et je trouvais ça assez amusant. Et c'était avec Ndepend, bien évidemment, que je faisais les différentiels entre les builds, etc., pour avoir les images. Et il est capable de faire ce genre de choses. Donc, ça, c'est un très bon produit.
Bah, pareil, Ndepend, je trouve que c'est bien pour... Tu arrives sur un projet, tu ne connais pas, tu vas voir les grandes briques, comment ça communique entre elles, etc. Ça te donne cette vision-là. Après, dans le quotidien, moi, je ne l'utilise pas personnellement. Je n'utilise pas non plus Sonar, en vrai, mais bon, il y a quand même un point intéressant en Sonar, c'est que maintenant, ils ont fourni les analyzers, ceci Roslyn. Tu peux quand même intégrer toute leur analyse statique directement dans ton projet. C'est sans avoir besoin d'avoir les serveurs et autres après. Donc, tu as quand même toute cette partie-là qui est importante. Et je pense qu'un des points, parce que là, on parle quand même d'outils pour acquitter du code, c'est déjà d'activer toute l'analyse statique dans le code qui donne une première, c'est un bon premier niveau pour éviter de mettre de la merde dans ton projet, là, justement. Et ça, après, ces outils-là peuvent te donner une vision, c'est détaché du développement, là. Dire de temps en temps, tu regardes ça, tu regardes si ça correspond à ce que tu veux ou pas, là, potentiellement. Mais ce n'est pas forcément des outils que j'utilise dans le quotidien, quoi.
Laurent, tu
veux... Moi, c'est clairement Ndepend. La dernière fois que j'ai regardé Sonar Cube, tu ne pouvais pas écrire de custom rule. C'est lent. C'est relativement lent comparé à Ndepend.
Ouais, bah, d'un côté, tu t'en fous un peu.
Ah non, moi, je m'en fous pas parce que c'est un truc qui tourne dans chaque build. En fait, oui. Nous, on a customisé notre build où on a deux outils de code, de static code analysis, qui sont Inspect Code, qui vient de Richard Perr et Ryder.
De toute façon, il fallait que tu causes de Ryder à un moment donné, quoi.
C'était obligé, non? Et en fait, pour moi, Ndepend, donc à part les avantages là de découvrir du code, d'aller broser, de voir graphiquement, de pouvoir requêter le code et construire des espèces de link query du SQL, sur le code qui devient de la donnée, ça c'est génial. Mais ce qui est super cool, c'est qu'on peut écrire des requêtes. Par exemple, nous on a des requêtes justement pour vérifier que quelqu'un va pas créer des nouvelles dépendances entre différents namespaces, par exemple, qu'on veut pas avoir, ou ce genre de choses, quoi. Et donc on a nos propres rêves et c'est exécuté dans la CI, ça casse la build et la personne doit fixer le problème tout de suite. Et ça, c'est pas possible avec Sonar Cube. Il me semble, hein, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas regardé, et il me semble qu'à l'époque, c'était pas possible. Et donc, pour moi, c'est clairement Ndepend. À noter aussi qu'il y a un autre projet là, qui a été fait par JetBrain, qui s'appelle Codana, Q-O-D-A-N-A, qui semble être assez intéressant, qui ressemble pas mal à Sonar Cube. mais avec les règles Inspect Code Rich Harper ou les règles de Rider, et qui construit une belle interface graphique qui permet d'aller browser, d'aller naviguer dans les résultats et de faire des diffs de versions et de voir l'évolution.
J'aime bien que ces outils-là soient assez différents quand même. Ndepen, ça n'a vraiment rien à voir avec Rich Harper, tu vois ce que je veux dire ? Ils ont un savoir-faire pour Rich Harper, pour peut-être des environnements de développement Java, machin. Bon, je préfère avoir Ndepen à côté qui est complètement autre chose, qui a son indépendance. Mais enfin bon, il faudra voir ce que ça devient le truc de Rich Harper, quoi, si c'est vraiment très très utile.
Ouais, le truc de Rich Harper, ça fait quand même... moi, ça fait plus de 10 ans que j'utilise, donc c'est pas... Yeah. Le nouveau truc, c'est la partie Codana.
Oui,
Rich Harper Inspect Code, c'est quelque chose... Ouais, ça fait...
Non, mais Rich Harper, j'avais le début, mais...
Et ça, tu peux le runner en tant que command line dans ton CI, et c'est pareil, tu définis des niveaux de sévérité de certaines règles, de choses que tu veux...
Voilà, alors c'est vrai que j'ai tellement vérifié des règles qu'on peut créer dans Ndepen qui sont vraiment très libres, quoi, avec le SQL, etc. Mais pourquoi pas, ouais, c'est certainement une observer,
peut-être. C'est pas les mêmes choses que tu vas vérifier, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est pas les mêmes trucs.
Ça se complète bien.
Moi, je dirais que c'est pas forcément les mêmes outils, tu vois. Ndepen, comme tu disais, c'est pour analyser le binaire déjà. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus limité. Et tandis que Sonar, c'est vraiment plus sur des analyseurs que tu vas brancher dessus, où tu vas vraiment pouvoir analyser le code. Et tu n'as pas le même usage. Pour moi, Ndepen, c'est plutôt pour un technicien, pour analyser, savoir quelque chose à faire et mettre des règles, le mettre sur la pile. Et tandis que Sonar, c'est plutôt pour un suivi général de l'équipe. Et ça donne aussi une visibilité à l'extérieur de la qualité. Et j'aime bien pouvoir avoir une note dans mon logiciel qui est bonne et pas être embêté pour répondre à des questions sur la structure du code. Donc ma note est bonne.
Ça me laisse Ndepen le support depuis quelques années, Michel. Ndepen supporte aussi ça, ce système de notes et de mesures de depth et des choses comme
non,
ça.
Non, je sais bien, mais ça, l'intérêt, c'est que SonarQube, tout est déjà fourni dans le portail. Il n'y a pas le.
Ouais.
Ça demande un peu plus de manip. Et
pour
des choses.
Pour les chefs de projet, d'avoir juste une page web, on a qui c'est vert ou c'est rouge ou c'est orange.
Mais il y a la même chose dans Ndepen.
Ça se regroupe sur certaines fonctionnalités, c'est vrai. Mais je ne vois pas le même usage pour les deux.
Tu as des résumés pareils. Après, on peut choisir ou préférer le look and feel d'un outil plus qu'un autre. Là, encore une fois, il n'y a pas de dogme, quoi. Si on a des outils de bonne qualité. SonarQube, c'est un truc de bonne qualité. Je parlais de visualisation qui était un peu moins pointue, mais en dehors de ça, c'est un bon produit comme Ndepen, quoi. Donc chacun va choisir en fonction de l'info en fait qui lui parle le plus et ou du temps de compile comme il a été dit. Je veux dire qu'il peut être parce que là il a l'air lent parce qu'il est malade, mais sinon on l'appelle Speed Request.
Quand tu compares 25 secondes et 4 minutes,
ouais,
25 minutes,
c'est sacré de boulot. Ouais.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Bien, et pour terminer cet épisode, je reçois François Tonic. Bonjour.
Bonjour à toi.
Rédacteur en chef de Programmé, de Pharaon Magazine et de
Technosaur.
Technosaur, voilà. Donc, tu n'as toujours pas racheté Le Monde, Le Figaro.
Ça ne m'intéresse pas.
Ce magazine.
Non, mais trop un magazine, c'est déjà pas mal.
Oui, oui.
Ça occupe bien les journées, les soirées. Et les mondes qui annoncent que ce soir, bon. Et parfois les nuits. Hein.
Et donc, tu es là pour nous parler, comme tous les deux mois, du prochain numéro de Programmé qui doit apparaître début février, je crois.
Oui, tout à fait. Donc, il sort le 3 février. Comme toujours, on a pas mal de sujets. Hein. On va parler un petit peu de Kotlin. Hein. Ma Kotlin, donc, pour ceux qui connaissent... c'est le langage aujourd'hui qu'on privilégie quand on code des apps pour Android. Et en fait, c'est aussi un moyen de rappeler que Kotlin, c'est pas que Android et que Kotlin n'a pas été fait pour Android. Parce que
je croyais, oui.
Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de devs croient ça, mais en fait, non. En fait, Kotlin n'a pas été fait pour le système Google. Google s'est greffé après coup. Donc, c'est un moyen, dans ce dossier, de déjà... parler des dernières nouveautés qui sont apparues dans le langage, les diverses évolutions. On va parler de Kotlin et la programmation fonctionnelle. Et c'est vrai que la communauté, d'ailleurs, des devs Kotlin est en grand débat autour de la programmation fonctionnelle dans Kotlin, parce qu'ils estiment que Kotlin, ce n'est pas du fonctionnel à la base. Donc, c'est un petit débat. Mais ce n'est jamais inutile de montrer toutes les possibilités en fait, d'un langage. Mais ça, c'est toujours intéressant. On va parler un petit peu de Kotlin multiplateforme, qui est en fait... qui est une sorte de subset en fait du langage proprement dit pour faire du multiplateforme, que ce soit dans le mobile et dans le desktop. Donc là, on va parler un petit peu de ça. Et on va parler aussi de comment on crée ADSL en Kotlin. Ensuite, le deuxième gros dossier, bah, c'est la programmation fonctionnelle. Alors, c'est vrai que quand on dit fonctionnel, on pense à Camel, on pense à du Lisp, on pense effectivement à Haskell. Donc là, on a décidé de ne pas du tout parler de ces langages. On va parler plutôt de Clojure. Donc Clojure, c'est la partie fonctionnelle qu'on greffe sur de la JVM. Donc là, ça, c'est le nom de Java, et qui fonctionne très, très bien d'ailleurs. Et on va parler du langage Coq. Hein. Donc Coq, en fait, c'est un langage qui permet de prouver ses codes et ses modules. Et Coq, en fait, c'est un langage plutôt pour les universitaires et les chercheurs. Et c'est l'un des développeurs d'ailleurs de Coq qui nous fait ce dossier-là. Donc c'est l'occasion de découvrir encore un autre langage. Hein. Et Dieu sait que dans le domaine des universités, que ce soit en France ou ailleurs, il y a énormément de langages qui sortent et qui sont maintenus, alors, dans des domaines très très précis. Mais il y a vraiment une profusion à ce niveau-là, et ça, c'est toujours intéressant.
Alors, en parlant de langage, je crois que tu veux nous parler d'un vieux langage qui s'appelle le COBOL. Oui.
Voilà, donc COBOL, en fait, contrairement à ce qu'on raconte depuis 20 ans, alors COBOL n'est pas mort, le mainframe n'est pas mort, et on voit même...
Les développeurs sont morts.
Certains, oui, ça, bon, ça, c'est vrai. Mais par contre, voilà, tu as du Microsoft, tu as du Google, tu as de l'Amazon, qui regardent un petit peu le monde COBOL parce qu'ils trouvent ça intéressant. Et c'est notamment le cas dans le 256 qui sort donc le 3 février, où on a un des spécialistes d'AWS qui va nous parler de comment on déploie des assets COBOL sur les instances d'Amazon.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est toujours intéressant.
Et alors, dans les langages les plus populaires, les langages... Certains diront le langage roi, mais il y a le C++, je crois que tu as un gros ou un gros.
Là, le C++ reste d'actualité. Hein. Je rassure, le C++ n'est absolument pas mort, même si certains, notamment chez Microsoft, un certain Marc, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous cherchez sur Twitter et vous trouverez tout de suite.
Oui.
Il prédisait la mort hein, de C++ au profit de Rust. En fait, c'est Vincent Lextrait donc, qui nous parle d'un développeur absolument
mythique.
Mythique pour nous. Évidemment, c'est le co-créateur, c'est le co-développeur quand même de Quake, le développeur de Doom quand même. Hein, donc, c'est John Carmack qui ne jure que par le C++ ou quasiment. Et donc en fait Vincent nous fait vraiment le résumé et en fait la quintessence d'une très longue interview que John Carmack avait donnée il y a quelques temps, donc une interview fleuve de plus de 5 heures, et donc en fait il va prendre des morceaux et il va vraiment mettre en avant un petit peu la pensée de Carmack et comment lui il voit le code et la programmation et comment en fait il a su optimiser et résoudre des problèmes et notamment dans la 3D, autour de la programmation. C'est super intéressant à lire. Alors, John, c'est toujours intéressant. Mais là, franchement, en plus, c'est en français, donc c'est bien aussi.
C'est plus facile.
Voilà. Mais franchement, à lire, parce que c'est super intéressant.
D'accord. Alors, il y a un petit peu de Java, je crois, aussi.
On va parler de Java 20, hein, parce qu'il sort en mars. Donc, pas franchement une version majeure, c'est plus une évolution mineure. Voilà, on a quelques nouveautés en preview, on a un petit peu d'incubateur au niveau des fonctionnalités. Alors, pas de grosses nouveautés, on a pas mal de preview encore une fois. Donc voilà, donc on suit en fait ce qui avait été fait pour la Java 19. Je pense que 2023, en fait, on n'aura pas de grosse évolution au niveau Java. Je pense que les très gros projets qui commencent à émerger dans la communauté OpenJDK, à mon avis, il faudra vraiment attendre 2024 pour que ça commence à poindre vraiment son nez dans la JDK.
Et donc, si on veut s'amuser, je crois qu'il y a un jeu, un genre de civilisation.
Voilà. Donc, en fait, c'est 0AD. Donc, c'est un jeu open source, en fait, qui ressemble un petit peu à du Civilization, à du Edge of Empire. Pour ceux qui ont connu, ça peut aussi rappeler à la série des Césars. 1, 2 ou 3, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, si vous ne connaissez pas, franchement, il faut installer le jeu parce qu'il est, assez énorme au niveau graphique, au niveau moteur 3D, au niveau du gameplay et tout. C'est franchement très, très fort. La base de code, il est assez costaud. Alors, évidemment, c'est beaucoup de C++, mais on a des moteurs de rendu, on a des moteurs d'intelligence pour gérer tout le gameplay et tout, les actions. Franchement, c'est à découvrir. Et c'est un Français, d'ailleurs, qui fait une partie de la maintenance, mais d'émerge un petit peu de tous les commits. Et mais c'est lui, donc c'est Stanislas Dolcini, en fait, qui nous parle un petit peu du jeu. Comment il se structure, son architecture et les technos qui sont derrière le jeu. Donc franchement, c'est à découvrir. Moi-même, je le connaissais pas vraiment et je l'ai découvert lors du salon Open Source Experience de novembre dernier à Paris. D'accord. Voilà. Bon, donc c'est toujours intéressant.
Ok. Bon, on a fait le tour ou tu as encore d'autres
choses? Voilà. Après un petit article assez amusant, c'est comment créer son ordinateur 8 bits.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Voilà, donc ça, c'est pas mal. Donc là, on revient aux fondamentaux de comment fonctionnent les portes logiques hein, dans un ordinateur et dans un processeur. Donc ça, c'est drôle. Bon, on va parler un petit peu de toutes les évolutions autour d'ECMAScript. Donc, c'est la base hein, de JavaScript. On va parler de bases de données, notamment dans un contexte de machine learning. On va parler de qualité du code. On va parler de storybook. Et comment, en fait, on va faire de la gestion de composants d'interface avec du storybook. On va parler un petit peu de sécurité au niveau API et comment on fait du zero trust au niveau des API, notamment quand on utilise des gateway API. Donc, c'est toujours pas mal à savoir. On va parler un petit peu de DTD, voilà, et puis de la gestion de type en back-end et en front-end, voilà. Donc, c'est un petit peu tout ce que je peux résumer, donc ce qui est déjà pas mal. donc, comme toujours, hein, pas mal de choses dans ce numéro donc, qui sort le 3 février. Donc, comme d'habitude, abonnement, kiosque papier et PDF.
Eh bien, super. Ben, écoute, merci. Et puis, hâte de pouvoir lire ce numéro dans quelques jours.
Ouais, super.
Merci.
Ciao. Merci à toi.
Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.